Bonjour à tous, bienvenue dans l'étoile polaire. C'est Fred et Pierrick
Et
qui
bonjour
veulent.
à vous.
Salut Fred.
Ça va, Pierrick?
Ouais, ça va et toi?
Ouais.
Content de se retrouver, de réenregistrer.
Dans l'étoile polaire,
Ouais,
tout
c'est
à
cool.
fait.
Alors, dans l'étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur de RDWA, on va vous parler pour cet épisode 7. Donc, toujours en première partie, on va parler du ciel ce soir. Petit tour d'horizon de ce qui se passe dans le ciel à observer. Une petite question d'actualité. Donc on a vu un article. Je vous lis le titre. En Antarctique, la NASA découvre l'indice d'un univers parallèle.
Aïe, aïe, aïe.
Touloulou. Voilà. Après, une petite question de Juliette. Donc on écoutera après. Après, Fred, tu vas nous faire un point d'astro sur une soirée d'observation.
Ouais, comment ça se déroule concrètement, une soirée d'observation en astro avec un télescope, comment on prépare ça, comment ça se passe?
Ok.
Pour ceux qui n'ont jamais fait, un descriptif.
Concrètement, quoi. Super. Petite pause musicale. Après, moi, je vais finir mon petit Odyssée martienne, là. Enfin, finir, non. Ce sera la deuxième partie de mon Odyssée martienne. Et il y aura une troisième partie, ce sera une interview de quelqu'un qui travaille sur le sujet profondément.
Ce
Voilà.
sera même une émission spéciale qui sera la prochaine émission
Ouais.
et qui est une interview que tu as réalisée avec un astronome physicien.
Un astrophysicien, ouais, qui bosse sur les instruments qui sont envoyés là-bas. Donc c'est super intéressant.
Chouette, et ben on écoutera ça, ce sera la prochaine émission.
C'est ça. Et on finit la rubrique à Braque par Mendeleïev.
Mendeleïev, le chimiste russe, et sa classification périodique, et en quoi ça intéresse l'astronomie et l'astrophysique. Voilà. Alors on commence par le ciel ce soir. Donc là, on arrive quand même dans les 2 mois les plus courts, les 2 mois où les nuits sont les plus courtes, et donc on commence à devoir veiller tard pour observer le ciel. Là, c'est à partir de 11h, 11h30. On voit toujours le lion qui apparaît, qui est quand même, qui domine le ciel. Mais très vite, il va aller vers l'ouest et vont commencer à se lever en fait les constellations du ciel d'été. On va voir donc si on prolonge un peu l'arrondi de la Grande Ourse, l'arrondi du manche de la casserole, on arrive sur une étoile bien brillante qui est Arcturus dans le Bouvier. Bouvier ressemble à une espèce de cerf-volant. Et de là, on voit la couronne. Alors la couronne, c'est une jolie constellation qui est assez petite dans le ciel et qui forme un demi-cercle avec une de ces étoiles très brillantes qu'on appelle Margarita. Et de là, le grand H de Hercule, la
Beaucoup plus
constellation
étendu.
d'Hercule. Ouais, plus
Ouais.
grand comme constellation, avec quand même des prolongations aussi en étoiles plus faibles.
Et la couronne boréale, des fois j'ai l'impression qu'elle fait une spirale, moi, quand je l'observe. Je sais pas si.
Alors en fait, elle fait quasiment un cercle.
Ouais, c'est
Alors
ça,
après, il y a
ouais.
des étoiles plus faibles, donc après on peut dessiner d'autres choses. Mais voilà, en tout cas, on a ce ciel qui apparaît. Et là, en fait, on va pouvoir pointer les télescopes, parce que le ciel d'été, il est quand même assez riche en objets messiers intéressants à observer. Donc en particulier, vous avez dans l'amas d'Hercule, enfin, vous avez dans Hercule le grand amas d'Hercule, qui est un amas globulaire. Donc, les
Ok.
amas globulaires, c'est des groupes de quelques dizaines de milliers d'étoiles qui sont en périphérie des galaxies. C'est comme des mini-galaxies autour de la galaxie, des mini-mini.
D'accord.
Et donc, mais elles font partie de notre galaxie quand même, hein,
Mais
de
un peu
notre
à
environnement
l'écart.
galactique. Voilà, un petit
D'accord.
peu à l'extérieur.
D'accord.
Donc, c'est plutôt des vieilles étoiles. On peut observer, donc il est assez facilement repérable, même à l'œil nu. Quand vous regardez Hercule, ça fait un H et vous prenez la barre de droite et la demi-barre du haut à droite en fait. Entre ces deux étoiles-là, vous trouvez la main d'Hercule.
D'accord.
Voilà. On peut aussi observer, si on attend encore un petit peu plus tard, on verra d'ailleurs un joli lever du Scorpion à l'est, bas sur l'horizon. Et là arrive vraiment le début du triangle d'été. Le triangle d'été, c'est 3 étoiles très brillantes, Deneb, Vega et Altaïr, respectivement dans le cygne, la lyre et l'aigle. Et là, on voit bien déjà la lyre arriver et le cygne. Et là aussi, il y a une nébuleuse planétaire à observer en fait dans la lyre.
À l'œil nu.
À
visible.
l'œil nu, alors lui il est plus petit et beaucoup plus dense la nébuleuse planétaire. En fait, ça va en fait c'est une espèce de une nébuleuse, donc ça veut dire du gaz
Ouais.
planétaire, parce qu'en fait c'est le résidu d'une explosion d'étoiles, et donc en fait ça part en sphère dans l'espace,
Ouais, d'accord.
et donc ça apparaît comme un disque qui a un certain diamètre luminescent. Voilà, et donc c'est assez joli. Et elle est c'est une nébuleuse annulaire, c'est-à-dire qu'en fait au centre c'est noir, donc
Ok.
ça forme un anneau. C'est assez
Ah ouais.
joli à observer. Voilà, donc deux objets qui sont assez facilement repérables, le grand amas d'Hercule et la nébuleuse annulaire de la Lyre, qu'on vous invite à observer cette semaine au télescope.
Patiemment, mais sûrement.
Voilà, pour le ciel, on avait une petite actualité du ciel qui était en fait cette histoire de comète. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, mais il y avait une comète qui était prévue pour là le mois de mai, et qui en fait s'est désintégré, s'est disloqué en plusieurs morceaux en entrant au voisinage du Soleil, en fait, du système solaire. Par contre, une autre est apparue qui elle n'était pas prévue. Alors moi, j'ai pas réussi à l'observer pour l'instant.
Moi non plus.
Le truc, c'est qu'elle est bas sur l'horizon, en fait. Donc vous avez vite une colline ou quelque chose. Elle est,
On vous invite à monter sur le Glandas.
voilà, elle est autour de, elle est dans, pardon, dans Persée. Donc Persée, c'est sous Cassiopée. Regardez au nord-est, quoi. Au petit matin, et là il fait jour tôt, donc vers 4 heures en fait. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc moi pour l'instant j'ai pas observé, j'espère pouvoir le faire.
Ok.
Voilà pour le ciel ce soir. On va passer au sujet d'actualité que tu as repéré, Pierrick.
Et oui, alors quand j'ai vu ça, c'était pas la première fois que j'entendais parler de ça, mais là je l'ai vu clairement dans un gros titre, quoi. En Antarctique, la NASA découvre l'indice d'un univers parallèle.
Rien que ça.
Alors, un journal passablement respectable, hein?
ouais, si on veut. Dis, ok.
Et du coup, ça m'a vachement interloqué. Et donc j'ai essayé de comprendre ce qui se passe là-bas. Ce que j'ai compris, c'est que la NASA avait fait des recherches là-bas en Antarctique parce qu'il n'y a pas de pollution d'ondes
Électromagnétique.
électromagnétiques, donc de radio.
Dû aux activités humaines.
Ouais,
Ouais.
très peu.
Ah ouais.
Donc ils peuvent faire des observations à ce niveau-là assez fines. Et du coup, ils ont une base, enfin ils ont une base, ils profitent d'une base là-bas, la NASA, pour envoyer des ballons, des sondes dans l'atmosphère pour capter des ondes qui viendraient du soleil ou
Mais là, en l'occurrence, c'est pour capter des rayons cosmiques.
voilà des rayons cosmiques. Et ils en ont capté, mais elles étaient à l'inverse de ce qu'elles auraient dû être, de ce que moi j'ai compris en tout cas.
Non, mais c'est ça, en fait, au lieu de venir de l'espace, comme elles sont censées, hein, les rayons cosmiques, comme son
Ouais,
nom
voilà.
l'indique, ça vient de l'espace, et là, elles venaient de la Terre, elles venaient du pôle sud.
Voilà, elle venait de pas l'endroit
Et
d'où
donc,
elle devait être.
voilà. Donc là, ils se sont posés une question, enfin, voilà, j'anticipe un peu, mais ils se sont
Ouais.
posés une question, c'est d'où ça sort, d'où ça vient. Alors, ils se sont demandé d'abord si ça venait pas de l'autre côté de la Terre, et si ça n'avait pas tout traversé, c'est
Oui,
ça?
parce qu'on avait parlé des neutrinos qui eux sont capables de traverser la matière. Donc là, ça pourrait être la même sorte de particules qui traversent la Terre et qui arrivent du
Ben,
pôle
c'est plus
sud et
loin que
qui
ça,
montent.
parce que, en fait, c'est la même type de signature que ce qu'ils observent de ce qui vient naturellement de l'espace. C'est pas juste qu'ils voient des choses autres ou nouvelles,
Ah oui, d'accord.
c'est ils voient la même chose,
Mais
mais
qui
qui vient de
arrive
la
d'un
Terre.
endroit qui n'est pas censé arriver
Alors
de
que
là.
normalement, ça doit
Ouais.
venir de l'espace. Alors, vas-y, je te laisse terminer et après on verra.
Eh ben.
Donc voilà, ils se posaient la
Voilà,
question, du coup,
ils
d'où
se
ça
demandent,
sort
mais d'où ça
et d'où le
sort?
titre
Et du coup,
qui quand
ils
même.
se posaient la question d'un univers parallèle ou à l'endroit où ils ont mesuré ça, il y aurait peut-être des échanges avec un univers parallèle. Mais en fait, après quelques recherches, il se trouve que la NASA n'a jamais dit ça. C'est juste les journalistes qui s'emballent à chaque
Ils
fois
s'emballent,
à
ouais.
spéculer des trucs que même des journaux
Les journaux
assez
nationaux, on va dire.
communs, des journaux nationaux reprennent alors qu'en fait c'est pas du tout prouvé.
Ben, en fait, c'est clair, il y a un grand saut. Alors, en fait, ils observent effectivement ces rayons cosmiques qui viennent de la Terre. Et du coup, ils se demandent si ça peut venir de l'autre côté. A priori, c'est non. Il y a trop de densité de matière, même pour des neutrinos énergétiques qui arriveraient en fait du pôle
D'accord.
Nord. A priori, ça pourrait pas passer. Mais au fond, pourquoi pas? On n'en sait
Ouais,
rien. Mais
ouais,
bon, a
ouais.
priori, ça passerait pas. Et du coup, en tout cas, c'est ce qui est dit dans l'article. Ils disent, bah, il n'y a qu'une solution. En fait, c'est que ces particules en fait voyagent à l'envers dans le temps.
Waouh.
Ouais, alors déjà il y a un méchant saut quand même entre. J'observe un truc. Alors soit dit en passant, ils sont à la limite de. Ils savent, ils sont pas encore sûrs que c'est pas un bug de
Oui,
détection,
il y a
parce que c'est des
aussi.
détections qui ont été très rares. Donc ils sont même pas sûrs que c'est réellement des données.
Ouais, ça peut être une erreur de données, hein, c'est sûr.
Deuxièmement, ils voient ce truc, ils en déduisent que c'est des particules qui voyagent à l'envers dans le temps. Enfin, moi personnellement, je trouve qu'il y a quand même un méchant saut. Et que de là, ils font encore un saut en disant, bah, ça ne peut venir que de la signature d'un univers parallèle. Ouais, super. Et faire un article avec ça, enfin, franchement, c'est de la rigolade, quoi. Mais ça me fait me dire que c'est pas la première fois dans l'étoile polaire qu'on présente une actualité pour dire que c'est de la non-actualité. Va peut-être falloir qu'on se renouvelle et qu'on trouve de l'actualité positive.
En tout
Bon.
cas, c'est intéressant de dire qu'il y a des découvertes
Et qu'il y a des choses
incroyables qu'on découvre, qu'on ne
Bah
sait
en
pas
fait, bah
expliquer et
bien
qu'on
sûr,
spécule
mais c'est en
dessus à fond.
permanence, la science c'est que ça.
Et
Ils
voilà,
observent des
c'est.
trucs, ils essaient de faire coller des modèles, ça colle plus ou moins, et
Ouais.
ils avancent comme ça, mais c'est toujours du bricolage, quoi, au
Ouais.
fond.
Donc voilà,
Ok.
c'est.
Et ben on va.
En tout cas, c'est une découverte excitante et tous les chercheurs ils sont à fond dessus. Voilà,
Ouais, parce qu'il
ça
reste
augure
quand même
de
pas
bel
moins
avenir.
une observation très étonnante. Ça,
Bien
d'accord,
sûr,
voilà, on peut dire ça. Effectivement, observation étonnante, un peu qui vient poser un défi aux scientifiques, quoi.
De plus.
De plus. Les pauvres. Ok. Bah écoute, on va passer à la question de
Ouais.
Juliette. On vous laisse écouter la question et on y répond après.
Alors, on a une question de Juliette, 9 ans.
Pourquoi l'univers est-il infini?
Merci Juliette.
Alors, pourquoi l'univers est-il infini? Waouh. Donc, question presque philosophique. Alors, déjà, le truc, c'est l'univers est-il infini? En fait, a priori, dans le modèle que les astrophysiciens ils ont construit, l'univers, il n'est pas infini. Mais le truc, c'est qu'il boucle dans une dimension qu'on ne peut pas
Il n'est
percevoir.
pas toujours en expansion et du coup infini?
Si. Mais
Enfin.
il n'est pas en expansion sur quelque chose. En fait, sa limite ne.
Ouais, c'est là où notre cerveau n'y arrive
Voilà,
plus.
en fait, c'est ça que je. En fait, on peut essayer de discuter de ça. On peut essayer de discuter de ça en prenant une analogie avec une boule. On imagine qu'on est une sorte de ver de terre et qu'on ne peut pas creuser, qu'on vit à la surface de la terre, en fait.
Ouais.
Ok? On ne peut pas aller en altitude ni en profondeur, on ne peut vivre que sur la surface.
Ok.
On bouge sur cette surface. On est dans un univers qui est fini, en fait. Il a une taille finie, qui est la taille de la surface de cette boule. On est d'accord?
Oui.
Et pourtant, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune frontière. Parce que la frontière, elle se trouve dans la hauteur.
Dans la troisième
Comprends?
dimension,
Où nous,
dans.
où ce ver de terre ne peut pas aller. Et bien nous, c'est pareil, mais avec la quatrième. Donc on ne peut pas transposer. Notre cerveau, il ne peut pas réellement imaginer ce que ça représente. Mais l'analogie, on prend une dimension de moins. Et
On se
on
représente les
essaie
choses.
d'imaginer ce que ça pourrait représenter. Donc avec ce ver de terre sur la boule. Donc pas de barrière pourtant dans un univers fini.
Pourquoi un ver de
Et nous
terre?
c'est pareil. Ça aurait pu être ce que tu veux. Parce qu'il y
Non,
avait cette idée de truc qui colle à la terre, à la
ah
surface,
oui,
quoi. Voilà.
d'accord.
Bon bref. Et donc à partir de là, c'est plutôt comme ça qu'ils le voient les astrophysiciens. Il n'est pas infini, il a une
Donc, ils
taille,
imaginent.
mais que nous, on ne peut pas voir les bords
D'accord.
de
Ils
cet
imaginent
espace.
l'univers comme une sphère
Une
où
hypersphère à quatre dimensions, dont la quatrième est le temps. Alors,
on. Ah ouais.
c'est ça, on va pas trop épiloguer. Donc pourquoi l'univers est-il infini? Voilà, ça m'amène à parler de ça, je ne peux pas répondre plus en fait.
Ouais, c'est une question philosophique existentielle.
C'est ça.
Et finalement, on n'en sait rien. Techniquement, on n'en sait rien.
C'est vrai. Je rappelle qu'on n'est jamais allé plus loin que la Lune, donc on reste modeste sur les connaissances.
L'être humain n'est jamais allé plus loin, mais les sondes sont allées plus loin.
C'est vrai.
Bon, si un jour on arrive à sortir de notre galaxie, ce sera beau.
Peut-être, peut-être à l'avenir. Voilà pour cette question de la semaine. Donc on va passer au point d'astro. Alors cette semaine, j'avais envie de décrire ce que ça pouvait être une soirée d'observation. Alors pour ceux qui sont déjà astronomes amateurs, ça va pas trop vous surprendre. Et puis de toute façon, il y a plein de façons de pratiquer l'astronomie. Moi, je vais vous en proposer une. Et puis pour ceux qui n'ont jamais fait, ça peut vous donner une idée de ce qu'on fait. Parce que quand on n'a jamais observé au télescope, moi, ce que je vois souvent, c'est les gens, ils veulent pointer des étoiles. Donc c'est aussi ce que ça va m'amener à discuter aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on observe réellement avec un télescope, parce que c'est pas les étoiles, ou très peu en fait. On l'a déjà dit, mais les étoiles, ça reste des points brillants, lumineux.
Elles sont tellement loin que tu as beau zoomer, en fait, c'est un point, quoi.
Ça reste un point, il n'y a pas de diamètre apparent, contrairement aux planètes où on commence à voir une surface avec des détails sur la surface.
Parce
Là, l'étoile, c'est trop loin.
les planètes sont plus proches de nous, du coup,
Bah, beaucoup plus proche.
du coup on peut les zoomer, quoi. Ça a
Elle
du
dit,
sens.
la distance lumière des planètes, c'est quelques heures par rapport au Soleil, ou plus loin, alors que l'étoile la plus proche, c'est des années-lumière de distance. Donc on est, ça n'a rien à voir, c'est pas à la même échelle. Donc on n'observe pas les étoiles, donc qu'est-ce qu'on observe? On va voir ça. Ben, on en a déjà un peu parlé. Par exemple, là, j'ai parlé pour le début du ciel d'été de la nébuleuse annulaire de la Lyre. Donc en fait, il y a toute la sphère des nébuleuses. Les nébuleuses, c'est du gaz qui va être luminescent ou sombre, et tout ça va créer des formes en fait dans l'espace, et c'est très joli en fait. Après, vous avez tous observé, enfin, ou vu, je veux dire, que ce soit sur Internet ou à un moment dans de la presse plus ou moins scientifique, des photos de Hubble, hein, le télescope spatial ou autre, tout le monde a au moins vu une fois ces images hyper colorées de formes qui sont quand même très étonnantes et très belles, très esthétiques. Après, nous, au télescope, c'est pas ce qu'on observe, parce que nous, quand on met l'œil au télescope, il n'y a pas la couleur. Mais il y a quelque chose qui se passe d'être en direct, en optique, avec la lumière vraiment qui vient du ciel et qui arrive directement dans l'œil. Elle n'est que renvoyée par le télescope. Sans filtre, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Donc ça qu'on ressent ou qu'on ressent pas, et qui fait qu'on va avoir envie de faire de l'astronomie ou pas.
Ouais, il y a un côté un peu magique à tout ça de voir directement la lumière qui nous arrive du fin fond de l'univers
Voilà.
qui met du temps à nous arriver et qui est très belle.
C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? Donc, par exemple, c'est les nébuleuses. Alors, il y en a de plein de différents types. On observe aussi des galaxies, beaucoup. D'autres galaxies que la nôtre. Donc, là aussi, il y a une variété de formes, des familles de galaxies, qu'elles soient spirales, elliptiques, irrégulières. Voilà, tout ça s'observe aussi. Ensuite, il y a ce qui est amas globulaires. Donc, j'en ai parlé pour Hercule. Là, comme je l'ai dit, c'est des vieux amas d'étoiles qui sont en périphérie de notre galaxie. Et là, ça, on a des formes plus arachnoïdes.
Donc ça, c'est en périphérie de notre galaxie.
Ouais.
Est-ce qu'on en observe sur d'autres, en périphérie d'autres galaxies?
Non, pas avec un télescope amateur.
Ouais, d'accord.
Mais toutes les galaxies ont en fait des amas globulaires autour.
D'accord.
Et
Et donc,
ensuite,
attends, juste les amas globulaires, c'est des amas d'étoiles où on
Ouais.
observe des concentrations
Oui,
d'étoiles.
c'est assez dense en général et avec des bras assez. C'est un peu arachnoïde, je disais, ça part un peu en tentaculaire.
Ok.
C'est joli, hein.
Ouais.
Là, le grand amas d'Hercule, c'est très joli. Voilà.
Ok.
Au ciel d'été, c'est à ne pas rater. Voilà, et ensuite, on va observer aussi des amas ouverts. On a déjà parlé par exemple des Pléiades ou de l'amas de la Crèche aussi, au cœur du Cancer. Voilà.
Donc, amas ouvert, la différence
Alors,
globulaire.
amas ouvert, là, on est plutôt à l'inverse des amas globulaires, on est sur des amas d'étoiles jeunes, des zones de formation d'étoiles, et qui sont en train de se disperser par le jeu de la gravité, petit à petit, elles s'éloignent les unes des autres.
D'accord.
Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup moins dense, mais
C'est
comme les Pléiades, en fait.
nébuleux ou.
Alors, souvent, c'est nébuleux, mais souvent, en fait, apparemment, cette nébulosité serait pas forcément liée à ces étoiles, mais. Par
Poussière.
exemple, dans les Pléiades, il semblerait que c'est une nébuleuse lumineuse qui est entre nous et cet amas des Pléiades, mais qui n'est pas en
Ah
rapport avec
oui,
ces étoiles.
d'accord.
Donc ça dépend des cas, en fait.
C'est pas forcément le cas. Ok.
Voilà. Voilà, en gros, les quatre types d'objets qu'on observe, plus les planètes et la Lune. Et les planètes, c'est principalement, quand même, Mars, Jupiter, Saturne. Après, Vénus, on ne peut pas résoudre la surface, l'atmosphère est trop dense, donc en fait, on voit que des croissants lumineux.
Ils
Donc c'est
sont très beaux
pas.
quand même,
Ils
hein.
sont très beaux, mais
Moi j'aime
voilà, il n'y a
bien.
pas forcément des heures à y passer.
Ouais.
Et la Lune toujours, quoi.
Ouais.
Alors clairement, voilà aussi une chose à mentionner pour ceux qui n'ont jamais fait d'astro, c'est que la Lune, nous, la pleine Lune, ça ne nous intéresse pas trop. Les soirs de pleine Lune, on va plutôt faire autre chose que de l'astronomie. Parce que l'éclat de la pleine Lune est tel que, en fait, on ne voit rien d'autre que la Lune, quoi. Tout ce qui est, on observe là des objets qui sont très faibles. Alors oui, j'ai aussi oublié de mentionner, on observe aussi parfois des étoiles doubles. Ça, c'est des fois joli au télescope, c'est-à-dire des étoiles qui réellement, en fait, parce que ça existe, des étoiles qui vont par deux. Imaginons qu'on ait deux soleils, par exemple, qui tournent l'un autour de l'autre.
Ok.
Et on peut avoir des systèmes binaires comme ça. Et des fois, elles ont des couleurs différentes, donc il y en a quelques-unes qui sont assez célèbres pour être jolies, quoi.
D'accord.
Albireo dans le Cygne, par exemple, centre de la croix du Cygne, et d'autres.
Okay.
Donc ça, on peut l'observer. Ça, c'est plus lumineux, on peut l'observer. Mais quand la Lune est trop brillante, on n'observe pas les nébulosités faibles. Et en plus, si on veut observer la Lune elle-même, c'est pas intéressant parce que nous, ce qui est le plus joli sur la Lune, c'est le terminateur. On a la zone entre la lumière et l'ombre, parce que là, l'incidence de la lumière est rasante, on voit le relief, et donc c'est très joli, ouais. On voit les cratères en relief.
Les ombres font apparaître les reliefs.
Exactement, ouais. Et ça, quand la Lune est pleine, on l'a pas non plus. Donc franchement, les soirs de pleine Lune, en fait, vaut mieux ranger le télescope. Après, ce qui est intéressant, c'est quand on a des croissants fins, que ce soit en début ou en fin de nuit, parce qu'on peut quand même se faire plaisir à observer la Lune, et en même temps, elle ne nous gêne pas trop pour ailleurs regarder le ciel profond. Donc voilà ce qu'on observe. Donc maintenant sur le déroulé d'une soirée d'observation. Et ben en fait, ce qui est bien, c'est d'avoir son temps. Par exemple, de prévoir de la fin d'après-midi jusqu'à tard dans la nuit. Parce que là, du coup, il fait jour, vous pouvez arriver tranquille.
Prévoir le lendemain. Parce que souvent, on se couche super tard.
En tout cas, le lendemain matin.
Et ouais.
Voilà, prévoir de pouvoir dormir un peu, quoi. Et de se dire, bah, cette nuit, en fait, on en parlait, Pierrick, avant de démarrer l'émission. En fait, si on veut vraiment... En fait, l'astro, ça se pratique pas, genre, allez, c'est la fin de la journée, on a fait plein de trucs, et tiens, si on regardait un peu les étoiles. On peut le faire, et c'est chouette aussi. Mais c'est pas ça le cœur de l'affaire. Le cœur de l'affaire, c'est quand on se dit, eh ben, nous, en fait, cette nuit, on va pas se coucher. On amène la théière, on amène le café, on s'amène des trucs à manger. Nous, cette nuit, on dort pas avant 3h du matin. Et peut-être que même si la nuit est belle et si on a envie d'en profiter, on va jusqu'au lever de... On peut faire des observations à l'aube qui sont jolies, quoi. Il y a moins de contraste, mais c'est très beau quand même sur la lumière de l'aube.
Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est sympa d'être, de prévoir ça, de prévoir une soirée entière, voir un lendemain.
Mais au moins déjà d'arriver
pour faire ça bien.
Pour prendre le temps d'apprécier les choses. Et donc d'arriver en fin d'après-midi, parce que mine de rien, un télescope c'est lourd, ça s'installe, il faut le mettre en station. On en parlera une autre fois.
Mais tout ça, c'est pas rien. Hein. Ouais.
Donc il faut quand même l'équilibrer, ensuite mettre ça bien, aligner le chercheur pour que ce qu'on... Parce qu'on cherche, on a toujours une petite lunette sur le côté, comme un gros viseur en fait, comme une petite lunette, et qui nous sert de chercheur pour avoir une zone plus grande et essayer de déjà repérer ce qu'on veut observer au cœur du télescope. Il y a quand même une difficulté technique d'aligner tout ça, de trouver l'objet, de mettre le tube dans la bonne... Enfin, c'est une habitude à prendre, c'est une pratique.
Non, c'est pas simple, c'est sûr. Et après, si tu y arrives, il faut trouver l'objet.
Et c'est là que ça m'amène au déroulé d'une soirée d'observation. Comme je vous dis, vous arrivez avant la tombée de la nuit, quoi, pour avoir le temps d'installer votre télescope, d'aligner votre chercheur.
En plein jour.
Ouais. Voilà, quand il y a de la lumière. Et ensuite, là, une fois que le télescope il est posé, que tout est prêt... Vous pouvez préparer la soirée, c'est-à-dire vous dire, ok, je prends une carte du ciel, donc par exemple une carte tournante, mobile, que ça on trouve partout, et vous regardez, qu'est-ce qu'il va y avoir comme étoile ce soir? Très bien. Maintenant, soit vous connaissez bien le ciel, soit vous prenez un ouvrage de référence. Par exemple, Le Brunier, Serge Brunier, il a publié un livre, Nébuleuses et galaxies, et qui en fait recense tous les objets observables, et leur position sur une carte plus ou moins détaillée. Alors cette carte, elle va suffire pour les objets vraiment brillants, parce que vous allez les voir au chercheur, et donc ça va passer. Mais en réalité, quand on pousse un petit peu, si on a des télescopes qui commencent à être à partir de 200 ou 300 mm de diamètre, là il vous faut une carte beaucoup plus détaillée du ciel pour trouver ce que vous voulez chercher.
Et oui, parce que plus on zoome et plus d'étoiles apparaissent, c'est ça,
plus on zoome, plus le champ est petit. Et plus il faut que l'alignement avec votre objet soit parfait. Donc en fait, vous ne pouvez pas pointer directement. Ce qu'on fait, c'est qu'on prépare. Donc comme je vous dis, on prépare la soirée d'observation. On repère dans le ciel ce qu'on veut observer. On regarde dans le brunier à peu près où c'est. On vérifie que la magnitude est correcte. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas d'observer un objet que de toute façon, on ne pourra pas voir. Je rappelle, la magnitude, c'est une mesure de la luminosité d'un objet. Et plus elle est haute, plus l'objet est faible. Donc jusqu'à l'œil, on va à magnitude 5-6.
D'accord.
0, c'est hyper brillant. Moins 3, je crois, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Sirius, un truc dans le genre. Donc, entre 0, 5, 6, et au télescope, vous allez pouvoir monter à 8, 9, allez, 10, les grands soirs, selon le diamètre que vous avez, quoi. Mais pas plus loin. Donc, on vérifie tout ça, que ce soit vraiment observable. Et après, on le repère sur, par exemple, le Sky Atlas, où là, vous avez une carte super détaillée du ciel, et vous repérez, vous décalquez, en fait, le chemin d'étoiles que vous allez devoir trouver dans le chercheur pour venir vous aligner parfaitement pour qu'au cœur, au centre en fait maintenant du télescope à l'oculaire, il y ait l'objet que vous cherchez.
Ouais.
Donc ça demande de vraiment, c'est un jeu de piste en fait.
Ouais,
on repère le champ d'étoiles. Avec l'habitude, on sait quel est le champ du chercheur, c'est-à-dire où on est. On peut même se découper un disque à la bonne échelle.
Okay,
et repérer le champ d'étoiles, le chemin d'étoiles, à partir d'une étoile brillante que, elle, on peut pointer directement au télescope et mettre au centre. Et d'où l'importance que le chercheur soit vraiment bien aligné avec le télescope et d'avoir pris soin de faire ça. Sinon, vous êtes mort. Si le chercheur il n'est pas aligné, vous ne trouvez rien.
Tout ça en mouvement.
Et tout ça, la Terre tourne. Mais ça, c'est pas trop gênant. Allez, quand vous êtes collé l'œil à l'oculaire en train de chercher votre chemin, en fait, vous rattrapez la rotation sans problème, surtout au chercheur.
Ça rajoute quand même une petite...
Voilà le déroulé. Vous arrivez, vous installez, vous repérez vos 3, 4, 5 objets. Après, ça dépend si vous êtes un chasseur d'étoiles ou pas. Il y a aussi des recordman pour ce genre de choses. Et puis, c'est parti. La nuit tombe et vous faites vos observations. Et c'est chouette. Et là aussi, savoir voir avec les oculaires, essayer est-ce que cet objet je le grossis beaucoup ou pas, ça n'a pas forcément d'intérêt. L'autre jour, j'observais l'amas de la crèche, par exemple, qui est donc un amas ouvert assez étendu et qui ressemble un peu, ça fait un petit peu boîte à bijoux, enfin c'est assez joli. Mais il faut, en fait, c'était plus joli au chercheur qu'à l'oculaire. En tout cas, carrément. J'avais pas d'oculaire grand champ et ça aurait mérité. Voilà. Bon, c'est ce genre de choses. Après, côté technique du télescope, ça il faut voir, faut prendre l'habitude de ça. Voilà ce que je voulais raconter. On peut mentionner quand même les jumelles. Et juste le plaisir d'observer les jumelles, c'est génial. Vous mettez un tapis de sol ou ce que vous voulez, ou un bon tapis d'herbe, caler les coudes en fait, et poser les jumelles sur les yeux pour pas que ça tremble. Et après, vous vous baladez et c'est hyper beau. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. On va faire une petite pause musicale. Et on se retrouve après.
À tout de suite. If you didn't care, what happened to me? I didn't care for you. We would zigzag away through the bottom of pain, occasionally glancing up through the rain. Wondering which of the brothers to blame. And watching for pigs on the wing.
Et bon retour dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA 107.5. C'était les Pink Floyd avec Pigs on the Wings. Alors, on en arrive à la chronique spatiale. Où là, Thierry, tu vas faire la deuxième émission consacrée à Mars.
Ouais.
Et finir ton périple des planètes telluriques.
Finir mon périple, des planètes. Et Mars, il y a eu beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de pas trop me perdre. J'en oublie sûrement beaucoup. Mais franchement, il y a eu tellement d'envois, de ratés, de... je peux pas tout dire, ce serait pas intéressant en plus.
C'est ça. Passons donc sous silence tous les échecs, les nombreux échecs de la
conquête
spatiale.
On parlait de 2-3 qui sont rigolos.
Allez,
mais...
c'est parti.
Et avant de reprendre sur, enfin, la dernière fois j'ai pas parlé de Phobos et Deimos, qui sont les satellites de Mars. Et voilà, que j'ai pas mentionné que Mars avait deux satellites. Donc Phobos c'est le plus gros.
Phobos c'est la peur.
Deimos, la terreur.
Ouais, c'est ça. Donc
c'est les fils d'Arès, ou de Mars pour les Romains, c'est le même dieu, et d'Aphrodite.
Donc ça rigole pas.
Voilà, c'est... on enfonce le clou là-dedans. Donc je reprends mes petites sondes. Donc là, on reprend avec les sondes Viking en 75. Donc il y en a eu deux. Chaque sonde est constituée d'un orbiteur et d'un atterrisseur. Donc ça, cette mission Viking, là, c'est celle qui a coûté le plus cher sur les missions martiennes. C'est 3,8 millions de dollars, quand même.
Dans les années 70.
Ouais, ouais, ils avaient des thunes encore à l'époque.
Non, mais des millions de dollars dans les années 70, c'est.
Ah, actualisé.
Ah, actualisé. Ouais. Ok, ça me semble pas monstrueux par rapport aux chiffres.
Un milliard, 3 milliards. Ah, ouais. C'est peut-être 3 8 milliards.
Ouais, j'imagine quand même. Non, je pense que 3 millions, c'est.
3,8 milliards.
Ouais, plutôt, ouais.
Mm. Ouais, ouais, ça doit être ça. Mm. Ok. Ce qui est quand même énorme.
Mm. Ah, bah oui.
Donc, les sondes vikings, elles y arrivent. L'orbiteur se met en place. L'atterrisseur se pose. Et c'est la première fois qu'on se pose sur Mars. Quand même pas mal. Mm. Donc là, donc c'est des atterrisseurs. Ils se déplacent pas sur Mars. Ils se posent et basta. Et donc, qu'est-ce qu'ils voient, ces sondes vikings? Elles voient des formations géologiques qui seraient sans doute formées par l'eau. Des sortes de
canyon.
Ouais, mais des trucs plus fins, des espèces de petits dépôts de terre qui sont comme sur une plage, sur Terre, hein, où on voit des formes créées par l'eau, quoi, comme dans des rivières, des lacs, des mers, etc. Elles nous apportent une vision complète de Mars par les orbiteurs qui font des photos de toute la planète, donc on voit tout. Elles voient beaucoup de volcans, de plaines de lave, de canyons, les premières photos de Phobos et Deimos. Et les bras articulés prélèvent les premiers échantillons. Donc voilà, c'est quand même une grande avancée pour l'époque. Ils ont mis le paquet et ça a marché. Donc, mais il n'y a toujours pas de vie sur Mars. Alors, à l'époque, ça a laissé des interrogations, parce que le but de ces missions, surtout celle-là aussi, c'était de trouver de la vie sous quelque forme que ce soit. Et donc là, ils n'en trouvent pas, mais il y a quand même des pistes. Il y a toujours des traces, des trucs qui laissent supposer que... Voilà, je reviendrai après là-dessus. Donc ces atterrisseurs et vikings, ils ont duré 6 ans, pour le Viking 1 en tout cas. Et il s'est arrêté dû à une erreur humaine. Durant la mise à jour d'un logiciel, il y a un mec qui a mis une mauvaise mise à jour et ça a mis l'antenne HS.
Aïe.
Du coup, il marche plus.
Dommage. Ok.
Voilà, je passe sur les échecs russes de Phobos. Ils avaient l'ambition de se poser sur les lunes. Donc la lune de Mars, et bon, voilà. Donc après, il y a eu beaucoup d'échecs dans ces années 90, là. En fait, suite aux missions Apollo qui ont coûté très cher, aux missions Viking et d'autres, hein, ils ont décidé de réduire les budgets en faisant du better, faster, cheaper.
Wow.
En tout cas pour les Américains.
Management.
Ouais.
Ok.
Donc meilleur, plus vite, moins cher.
Ouais.
Ouh. Et du coup, ils en ont perdu plein.
Super.
C'est, il y en a plein qui sont crachés, qui ça a pas marché. Et l'échec le plus cuisant, le plus navrant, j'en sais rien. Mm. C'est le raté de la mise en orbite de Mars Climate Orbiter. Donc la sonde arrive près de Mars et elle va commencer sa mise en orbite. Donc là, faut qu'elle freine, qu'elle, pour se mettre en orbite.
Ouais.
Et là, elle passe le long de la planète et puis elle se barre plus loin.
Ah, elle rate.
Ouais, raté l'orbite.
Et donc, ils n'ont pas réussi à la rattraper?
Bah non. Non, après, c'est foutu. Et pourquoi alors? Et bah, en fait, cette anomalie de trajectoire, elle est due à la société Lockheed, donc une société américaine
pour
qui
ne
travaille.
Pas la nommer.
Oui, pour ne pas la nommer. Ouais. Ouais. Qui travaille sur ces sondes. Qui travaillait en unité de mesure anglo-saxonne.
Ah non.
Donc en livre-force seconde. Alors que le JPL, l'organisme de la NASA qui gère les sondes, était en système métrique en newton seconde. Et du coup, les conversions, bah, c'est pas les mêmes.
Oh là là, et ça du c'est coup, ridicule.
Non, mais comme quoi, pour dire que même les plus grands scientifiques qui bossent à la NASA dans les trucs de fou là, font quand même des erreurs et que l'erreur est humaine.
Mais des erreurs, il y en a partout. Dans
et que
tout,
heureusement qu'on fait des erreurs, parce que je crois que c'est comme ça qu'on progresse l'être humain.
Aussi.
Et... Donc voilà. Mais quand même, je voulais le dire. Donc là, il y a Lucie Lou en fond sonore, sûrement.
Ah, donc la dernière fois, c'était la débroussailleuse, là, c'est les enfants. C'est plus agréable. Hein.
Donc après, dans les années 90-2000, il y a Mars Global Surveyor. Donc elle, c'est juste un orbiteur qui détecte un espèce de champ magnétique que jamais auparavant les autres sondes n'avaient détecté. On pensait qu'il n'y en avait pas. Pourtant là, on suppose un champ magnétique rémanent. Donc rémanent, donc c'est un truc qui est différent de la Terre où Ou a priori sur Terre, c'est un effet dynamo entre le cœur.
C'est actif
et...
en fait. Rémanence, ça veut dire qu'il est, c'est un résidu de quelque chose qui a existé à une époque et qui n'existe plus. Et il y a un reste quand même de ce magnétisme, mais il est faible. Quoi.
Voilà, et qui, ça prend son origine dans la croûte martienne. Donc ça pose la question du cœur de Mars, de ce qu'il y a eu, de ce qu'il y a, de, voilà, de ce que tu expliquais. Qu'est-ce qu'il y avait avant en fait sur cette planète.
Ouais.
Aussi, Mars Global Surveyor, il trouve de l'hématite grise. Donc l'hématite grise, donc j'en avais parlé dans la première émission, l'hématite c'est, la, c'est ce qui donne cette couleur rouge, rouille à Mars. Et là ils en ont trouvé de la grise, qui est sûrement cristallisée avec de l'oxyde de fer. Et ça, ça se forme en milieu aqueux.
Okay.
Voilà, encore des possibilités de, qu'il y ait eu de l'eau liquide.
Après qu'il y ait eu du liquide, est-ce que c'est forcément de l'eau, ça c'est moins évident.
Bah, c'était pas. Il y a très longtemps.
Oui,
tu
oui.
vois, c'était pas du tout.
Mais après, donc ces histoires de canaux martiens dont tu avais parlé aussi la dernière fois, du coup, ça correspond à quoi? Ça correspond à ces formations potentiellement faites par de l'eau?
Bah,
par,
c'est possible. C'est possible qu'il y ait eu beaucoup des océans
ouais.
sur Mars et qu'il y avait des rivières, des lacs, etc. Et que ils ont formé des choses qu'on voit maintenant qui sont vides.
Ok.
Et elle trouve donc de l'eau sur les pôles, mais sous forme de glace. Sur 1 km de profondeur. Donc, soit de l'eau, soit, comme on disait, du CO2.
De la neige carbonique.
De la neige carbonique, voilà. Donc, après, il y a eu Mars Odyssée. Donc, Mars Odyssée, je veux juste... c'est une petite orbiteur qui a quand même duré... Enfin, qui est toujours actif et qui dure 19 ans. Et qui a duré 19 ans jusqu'à maintenant, quoi. Parce qu'il a été lancé en 2001. Et qui sert de relais... qui sert de relais aux rovers, aux petites machines, aux petites voitures qui se déplacent
les
sur Mars,
buggy, là.
Qui sert de relais, d'antenne relais pour transmettre des informations à la Terre.
À la Terre.
Voilà. Et qui sert aussi de sélection de sites d'atterrissage. Voilà, qui continue des observations quand même. Hein. Là, j'arrive plus récemment avec des noms qu'on connaît un peu plus, c'est Spirit et Opportunity. Donc là, c'est les deux rovers qui se déplacent à la surface. Donc là, ils arrivent à... Ils posent une petite voiture, quoi, et qui se déplace un petit peu dans les cratères.
C'est une grosse voiture télécommandée.
Ouais, c'est ça.
Qui va sur Mars. Bourré de capteurs, de caméras, de détecteurs.
Qui est bourré d'instruments,
tout
genre. Ouais. Donc Spirit, il se balade... Enfin, elle se balade, oui et non, hein. Ça doit être très compliqué de gérer tout ça. Suite à des tempêtes, il y a de la poussière qui se met sur les panneaux solaires, du coup, elle marche plus ou moins bien, elle s'enlise.
Et oui, il y a plein de problèmes techniques et on ne peut pas intervenir
dans
sur
le sable
place,
et
c'est compliqué, ouais.
Donc Spirit, il ne dure pas très longtemps. Par contre, Opportunity, lui, il a bien marché. Et Opportunity, par exemple, il découvre la première météorite de Mars, donc hors de notre planète, quand même pas mal. Elle a le record de distance à la journée, de distance parcourue en une journée, 220 mètres en une journée.
Ah oui, c'est pas énorme.
Tu vois, c'est pas fou, hein, mais
ouais, c'est sûr.
Piloté depuis la Terre, quand même.
Ouais.
Elle s'est enlisée, puis ils ont réussi à la libérer en faisant moult manœuvres, mais ça a quand même pris un mois et demi.
Ah oui.
Tu vois, d'avancer, reculer, tourner un peu la roue à droite, à gauche.
Aïe, aïe, aïe.
Ouais, c'est quand même... Elle a quand même duré 6 ans. Quand même pas mal. Donc, elle trouve pas d'eau liquide. A priori, il n'y en a pas.
Non.
Du tout, du tout. La glace, elle trouve de la glace hydrique. Enfin, elle trouve de la glace sous forme... trouve de l'eau sous forme de glace ou de gaz.
Voilà. En faible quantité.
En faible quantité. Et elle, en étudiant tous les petits rochers qui affleurent au sol, le rover Opportunity, il pense qu'il y a eu de l'eau, enfin les chercheurs pensent qu'il y a eu de l'eau, mais il y a 3,8 milliards d'années.
Ok.
Et tu vois, c'était pas, c'est très longtemps quoi. Et 4 milliards d'années, peut-être qu'il y avait des océans,
ça veut dire,
des lacs
pas,
et...
pas vraiment longtemps après la formation de la planète, parce que la Terre et Mars s'est formées à peu près en même temps et c'est 4,5 milliards d'années. Donc si tu dis que là on est à combien,
3,8,
c'est 700 millions d'années après sa formation, donc c'est vraiment tôt quoi.
Ouais.
Ça veut dire qu'elle en avait dans sa, en formation, il y avait de l'eau présente et qu'ensuite elle a disparu quoi. C'était en trop faible quantité.
C'est ça, on dit souvent c'est une planète mort-née. Tu vois, elle est intéressante. Il en parlera dans les prochaines émissions hors série spéciale
Ah oui.
Mars. Et voilà, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est une planète qui est à peu près comme la Terre, mais qui a un truc,
Ce
c'est
qui s'est pas
borné quoi.
passé.
L'embryon, il a pas
Le
pris, j'en sais
développement de la
rien.
vie,
Là, voilà.
il a pas pris, ouais.
Ouais.
Ok. Ou alors il y
Après.
a eu une vie, mais qui a été ensevelie depuis belle lurette. On n'en sait rien de tout ça.
Ou peut-être qu'il y a une civilisation super balèze et qu'elle est venue ensemencer la Terre et qu'après elle s'est autodétruite.
Voilà, là on peut partir dans tous les scénarios possibles et imaginables.
Donc si je continue mon petit chemin là, en 2011, il y a eu Curiosity. Donc ça, elle est toujours, c'est toujours un rover qui se balade sur la planète. Et il est toujours en fonctionnement. Donc il a parcouru 21,68 km en 9 ans.
Ok. Ouais, c'est des toutes petites
Voilà, donc
explorations, quoi.
faut pas s'attendre à ce qu'ils se fassent des tours de planète. En fait, ils font
Mmh.
des petits bouts de chemin, quoi. Donc après, il y a des instruments qui sont en panne, genre la station météo, les roues, parce que comme il y a une caméra sur le rover, ils arrivent à filmer le rover, tu dois tourner la caméra, et pour voir un peu l'état du rover. Et donc ils ont vu que les roues étaient abîmées suite à des passages sur des roches abrasives. Et donc, avec tous les orbiteurs qu'ils ont en orbite autour de la planète Mars, ils arrivent à définir une trajectoire où il n'y a pas de roches abrasives sur le trajet du rover.
Ok.
En fonction de,
Pour
tu
qu'il dure
vois,
plus longtemps.
voilà.
Ouais.
Et la foreuse aussi, elle est en sale état. Donc, un petit mot sur. Ça consomme 250 watts. C'est pas beaucoup, je trouve.
Non.
Pour tout ce qu'il y a dessus, cette petite balade, donc elle fonctionne que sur panneau solaire.
Mmh.
Il faut entre 8 et 42 minutes pour échanger avec le rover. En fait, 8 minutes c'est quand la Terre et Mars sont proches. 42 minutes c'est quand elles sont le plus éloignées.
Ok.
Tu vois, et tout est piloté à distance depuis la Terre. Le rover, il fait aucune manœuvre tout seul. Quasiment tout est piloté, quoi. Bon, c'est pour ça en fait que c'est très long. Et elle se sert donc du coup d'un orbiteur comme relais pour communiquer avec la Terre. Voilà. Donc Curiosity, il a fait pas mal de découvertes. Donc il a exploré des deltas avec beaucoup d'alluvions dedans. Alors des deltas, c'est des bras de fleuve qui se séparent en plusieurs. C'est un fleuve qui se sépare en plusieurs bras.
D'accord.
Ça, c'est ce qu'on appelle un delta. Et dans lequel il y aurait des alluvions. Donc que l'eau aurait déposé notamment de l'argile, la roche sédimentaire, des trucs encore une fois qui viennent un peu prouver qu'il y a eu de l'eau à une époque.
OK.
Voilà, donc elle vient étudier ça, c'est le cycle de l'eau. Elle fait beaucoup de détails. Il y a énormément de photos sur internet, je vous invite à aller voir, c'est assez bluffant de voir des photos d'autres mondes comme ça.
Le nom de la sonde, c'était
Ça, c'est Curiosity.
Curiosity.
Et du coup, dans ses sédiments et tout ça là, elle relève du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, du soufre, de l'azote, du phosphore. Donc en fait, un environnement viable sur le plan biologique.
Ouais, tout ce qu'il faut pour faire de la chimie.
Ouais.
On va en reparler juste après.
Ouais, ok, super. Mais il y a 4 milliards d'années quoi. Parce que là, il n'y a rien. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est un peu un jeu de piste là-bas
Sait
qu'ils
pas.
essayent de faire. À chaque fois, chaque sonde en fait apporte une petite pierre à notre compréhension
La formation du système solaire et des
voilà,
planètes.
de la vie en général, quoi.
Ça, c'est le travail des planétologues, hein. C'est une spécialité de l'astrophysique.
Et donc Curiosity, il voit aussi que, enfin, il comprend que l'atmosphère s'est échappée dans l'espace. À un moment donné, comme on disait le
Joli.
Ouais. À un moment donné, l'atmosphère de Mars s'est échappée dans l'espace suite peut-être à un arrêt de la.
Mars, elle est quand même plus petite que la Terre, donc elle est un peu moins massive. Même si elles sont jumelles, elle est quand même un peu plus petite, Mars.
Oui.
Et du coup, elle a une gravité qui est plus faible, peut-être qu'elle aussi, elle n'a pas réussi à garder son atmosphère.
Voilà, ouais.
Parce que toutes les planètes, quand elles se forment, en fait, les roches qui vont former les planètes contiennent des gaz. Et ces gaz vont s'échapper au moment où la planète va s'agglomérer. Et donc vont former ce qu'on va appeler une atmosphère primitive. Et
D'accord.
ensuite, la planète peut la garder si elle a une gravitation suffisamment élevée. Mais si elle l'a pas, tout ça s'évapore dans l'espace, en fait.
Ok.
Et donc la Terre l'a gardée, et ensuite cette atmosphère, elle est transformée par les transformations géophysiques, puis ensuite biologiques, qui se passent à la surface de la planète. Voilà.
Ok. Donc voilà. Ah oui, elle détecte aussi une variation saisonnière, c'est-à-dire il y a quand même des saisons sur Mars, du taux d'oxygène. Donc il y a un très faible taux d'oxygène sur Mars, qui varie en fonction des saisons. Donc ça aussi c'est mystère quoi, mais c'est intéressant quoi, du coup ils se demandent pourquoi. Et aussi ça fait beaucoup de bruit ces derniers temps, des détections de lâcher de méthane. C'est par moment elle détecte du méthane. Et le méthane, c'est un gaz lié à la vie, la méthanisation, on en parle un peu pour tout ce qui est compostage, etc.
La chimie organique, quoi. C'est la base de la chimie organique. Quoi.
Donc, ça serait lié à...
La chimie du carbone.
Peut-être à un bout de vie ou pas, quoi. On ne sait pas. Et voilà, je vais m'arrêter là. Et alors, tout ce qui est plus récent, je parle pas de tout, hein, parce qu'il y en a encore moult. Mais en tout cas, la prochaine émission, il y aura beaucoup de précisions sur tout ce qui est très récent, notamment InSight, les projets à venir sur Mars, et je vous laisserai découvrir ça, le spécial hors-série numéro 1 de l'Étoile Polaire.
Super.
Interview.
Merci à toi, Pierrick.
Voilà, plaisir.
On va passer à la rubrique Abrac. Alors, cette semaine, on va se consacrer à Mendeleïev, donc Dimitri Ivanovitch Mendeleïev. C'était un chimiste russe. Et lui, il est né en Sibérie en 1834 et il est mort au début du siècle dernier, en 1907.
Ok.
Donc ça, c'est pour cadrer un peu le personnage. Et il est surtout connu pour avoir, en 1869, publié ses travaux sur la classification périodique des éléments. Donc ça, probablement, vous avez des souvenirs de collège, probablement plus de lycée, mais où dans la classe de physique-chimie, il y avait un grand panneau avec un tableau où étaient rangés par symbole des éléments chimiques, donc en commençant en haut à gauche par H pour l'hydrogène, ensuite tout à droite en haut l'hélium, ensuite il y avait des lignes, des colonnes, et on retrouvait C, N, O, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, etc. Et tous les éléments chimiques de la classification.
Le fameux tableau
périodique
des éléments.
Ouais. Donc voilà, on va parler de lui et de cette fameuse classification. Alors avant de parler de ça, on va... Il y a deux petits points que je voulais mentionner. Donc, il y a une légende un petit peu tenace sur Mendeleïev, comme quoi il aurait été alors l'inventeur de la vodka, mais plus précisément celui qui aurait déterminé le degré idéal de l'alcoolique de la vodka à 38 degrés.
Ah oui, parce qu'après, ça devient mortel, c'est ça?
Je ne sais pas, parce que
le taux d'alcool
il y a beaucoup d'alcool à plus de 38. Hein, donc, voilà. En tout cas, en fait, c'est faux. Apparemment les faits et les chroniques démentent cette légende. Et voilà. Et sinon, par contre, j'ai trouvé une citation un peu plus intéressante, parce que Mendeleïev, en fait, c'était donc un chimiste, mais il était, en fait, c'était quand même un homme important à son époque, au sens où c'était quelqu'un qui touchait à plein de domaines et qui avait des idées vraiment intéressantes sur plein de choses. Enfin, c'était un chercheur vraiment intelligent et novateur. Ouais.
Ok.
Et donc il parle du pétrole, parce que lui, ce qu'il adorait aussi, c'était la synthèse chimique, hein, on en est à ça. La synthèse, c'est quoi? C'est on part de molécules simples dont on peut disposer, je sais pas moi, de l'eau, du soufre, bon voilà, des éléments chimiques
faciles à récolter,
qu'on peut, qui sont simples, du fer, voilà, enfin le fer c'est pas si simple à avoir pur, mais bon voilà. Et de ça, en fait, on va faire des transformations un peu comme faisaient les alchimistes il y a 500 ans, mais pour faire de la synthèse, c'est-à-dire pour fabriquer de nouvelles molécules et donc de nouveaux matériaux, de nouvelles substances. Et donc évidemment, il a beaucoup travaillé autour du pétrole et des hydrocarbures, parce que là, on est en plein dans la chimie organique. Je rappelle l'origine du pétrole, bon, tout le monde le sait, mais c'est des forêts en fait préhistoriques fossiles qui sont dans certaines conditions de température et de pression à l'intérieur de la croûte terrestre transformées au bout de millions d'années en pétrole.
Une décomposition
ouais. Au cœur de la croûte, hein, on n'est pas en profondeur de la Terre, mais par rapport à nous, c'est dans le sol.
Ouais.
Et donc c'est pour ça que d'ailleurs ce matériau est une ressource qu'on peut épuiser, puisqu'il faut des millions d'années pour fabriquer cette substance. Donc lui, il dit... Ce matériau est trop précieux pour être brûlé. Quand nous brûlons du pétrole, nous brûlons de l'argent. il faut l'utiliser comme matière première de la synthèse chimique. Donc pour lui, tout le développement.
1800, il avait
voilà,
déjà
on parle de l'époque.
Que...
Avant, on est, je rappelle.
Avant l'ère du pétrole même, quoi. Avant l'ère.
Bah ouais.
Carrément avant.
C'est-à-dire, il est au début, c'est pas
tout
au début de l'ère industrielle
des...
en fait, 1870, 1869, voilà, dans quelle époque on est. Lui, il dit le pétrole, il faut pas le brûler. On peut fabriquer des choses avec parce que c'est la chimie du carbone et je vais y revenir, mais c'est une chimie qui est très riche, qui permet de faire plein de réactions différentes, plein de choses.
Ok.
Voilà, donc ça c'était pour mon introduction un peu à Mendeleïev. Donc maintenant je vais parler de son travail et donc de cette fameuse classification et de comment en fait on a classé. Voilà. C'est ça la question un peu à laquelle on va essayer de répondre. C'est ce tableau, bon bah très bien, on a rangé les éléments. Donc faut savoir, les éléments chimiques ont tous un symbole qui les représente. Okay, donc hydrogène H, carbone C, etc. Et il a rangé tout ça en fonction de lignes et de colonnes. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi il les a classés comme ça? Et c'est à ça qu'on va essayer de répondre. En fait, c'est lié à la structure de l'atome. Donc ça, on a déjà parlé de structure de la matière, donc je ne vais pas y revenir. Donc l'atome, le noyau et les électrons autour. Et donc, l'élément le plus simple, on en a déjà parlé, c'est l'hydrogène qui correspond à un noyau le plus simple possible, juste un proton, et autour un électron. Voilà la première élément chimique, la brique de toute matière. On peut pas faire
plus simple. La base de l'univers.
Donc ensuite, on passe à l'hélium. L'hélium, là, on a deux protons. Okay. Et en fait, c'est le nombre de protons. En fait, la classification périodique, elle est rangée par nombre de protons dans le noyau.
D'accord.
Déjà. Donc ça veut dire de la matière. Elle est rangée par complexité de la matière, quelque part.
De gauche à droite, tu veux dire? Quand on lit
voilà, tableau. Quand on part à gauche, on va à droite.
Ok.
Dans ce sens-là. Et ensuite, on descend les lignes, la première étant celle d'en haut avec l'hydrogène.
Ouais.
Donc on suit comme ça, de gauche à droite. Quand on arrive au bout d'une ligne, on va à gauche de la suivante, etc. Et là, on a l'augmentation de 1 en 1 du nombre de protons dans le noyau des éléments.
D'accord.
Donc ça, c'est la base. Maintenant, ensuite, il y a des colonnes. Et là, les colonnes, on rentre dans autre chose, on rentre dans les électrons. Donc, comme on l'a dit.
Ce qui gravite autour des noyaux.
Alors, ça ne gravite pas parce que ce n'est pas la force de gravitation qui est en jeu là.
Ah.
Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle planétaire de l'atome où on imagine comme la Terre et la Lune, et on a plein de petites lunes, c'est les électrons. Et au cœur, on a le noyau qui serait la Terre. Réellement, c'est pas ça du tout.
C'est pas pareil, ok.
Mais, parce que là, on rentre dans la mécanique quantique, on y revient de toute façon et on va finir par les faire, ces émissions sur la mécanique quantique, mais ce ne sera pas aujourd'hui. Donc on peut garder un modèle planétaire si on veut en tête, c'est pas gênant. Là l'idée c'est, on parle des électrons donc dans ces classifications et les colonnes correspondent à ça. Et en fait c'est le nombre d'électrons qu'il peut y avoir, en fait c'est sur la dernière couche électronique, en fait c'est ça. Alors je vais détailler sans rentrer trop technique, mais en gros les électrons, les électrons ils sont chargés négativement. Les protons ils sont chargés positivement, de la même charge. Donc en fait, il s'annule et on a quelque chose de neutre. Or, l'atome, et c'est la stabilité, c'est quelque chose qui est neutre au niveau électrique, parce que sinon, il va avoir tendance à attirer ou quelque chose pour le rendre neutre. Tout en électromagnétisme tend vers la neutralité électrique. Donc l'atome, il fait ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a autant d'atomes que de protons. Autant d'électrons que de protons. Donc si on part sur l'hélium, ça veut dire qu'il y a deux électrons aussi. Et assez vite, on augmente, on va à 20, 30, 40. On commence à avoir pas mal d'électrons. Ces électrons, ils ne s'organisent pas n'importe comment, en fait. Ils s'organisent en couches, comme des pelures d'oignons, plus en plus éloignées.
Ah ouais, d'accord.
Et en fait, sur chaque couche, il peut y en avoir qu'un certain nombre. Ça, on ne l'explique pas. Ce n'est pas un modèle, on l'observe, c'est comme ça. La matière, elle se structure comme ça.
Okay.
Donc, on a ces couches en pelures d'oignons. Et par exemple, sur la première couche, il peut y avoir que deux électrons. Bon, et etc., etc. Et ensuite, ça... Et donc, en fait, on range les électrons par couche. Et on regarde combien il y en a.
Par couche.
Sur la dernière. Et en fait, il peut y en avoir jusqu'à 8.
D'accord.
Une couche, ça va être 8. En tout cas, pour la matière la plus élémentaire, celle qui nous constitue et celle qu'on observe.
D'accord.
Donc, 8, voilà.
Lui, il a observé ça
Il a déterminé ça par ses travaux sur la structure de la matière. Donc, il a rangé tout ça. Donc, comme je le dis, c'est ça, par ordre, par... complexité de matière avec le nombre de protons dans le noyau et ensuite comment les derniers électrons, combien il y a de derniers électrons et pourquoi c'est important ça. Parce que combien il y a de derniers électrons, ça va vous dire comment vous pouvez interagir, parce que la matière elle veut remplir ses couches en fait. Et donc en fait si par exemple l'atome de carbone on sait que lui, il a quatre. En fait, il est capable de se lier quatre fois. Parce qu'il a quatre couches sur sa zone extérieure. Il a quatre électrons sur sa dernière couche.
Ouais.
Et lui, il aimerait bien en avoir huit. Bon, d'accord. Je ne rentre pas plus dans les détails, c'est comme ça. Mais donc, du coup, il va tout faire pour que ces quatre électrons-là fassent la paire avec quatre autres électrons. Et donc, on peut en faire quatre. Et c'est le maximum qu'on peut faire dans la matière. Plus tu peux en faire, plus on peut faire de liaisons, plus on a une chimie complexe qui permet de construire des molécules complexes. Si vous avez par exemple l'hydrogène, l'hydrogène il peut rien faire parce que l'hydrogène il a qu'un électron. Tout ce qu'il peut faire c'est une liaison. Et donc il va faire quoi? Il va se lier avec un atome, à un endroit. C'est tout ce qu'il peut faire. Donc il vient s'accrocher. Mais c'est pas avec deux atomes d'hydrogène, on fait quoi? On fait rien. On fait des molécules de dihydrogène. C'est le gaz qu'on observe. Hein. Quand on dit l'hydrogène, c'est un raccourci. Il y a deux atomes d'hydrogène dans les molécules du gaz qu'on appelle hydrogène, donc dihydrogène. Voilà. Donc ce tableau, il sert à ça. Il sert, en fait, c'est la base de la chimie, parce que il vous décrit comment, en fait, les atomes vont pouvoir interagir les uns avec les autres à l'intérieur des molécules.
Et du coup, comment on crée de la matière?
Comment la matière se structure?
Et comment il a fait pour définir ça?
Franchement, je peux pas en dire plus.
Ok.
Mais c'est des travaux à la fois théoriques et expérimentaux, quoi.
D'accord.
Voilà. Et donc, ce qui est intéressant aussi, on va terminer là-dessus, c'est que en ayant fait cette classification, eh ben, il peut, il y a des éléments qui n'avaient pas été encore découverts à son époque. Et il dit, là, il y a un nombre atomique croissant, toujours de 1 en 1, le nombre de protons dans le noyau. Et là, si je fais un de plus, en fait, non, moi, je l'ai pas cet élément.
Ah ouais, tu veux dire que quand il a créé le tableau, il y avait des blancs dedans.
Il y avait des blancs, exactement. Donc, okay. Il a prédit l'existence d'éléments non encore découverts à l'époque, donc fin du 19e.
Sacré bonhomme.
Et effectivement, dans la recherche scientifique, par la suite, ces éléments ont été mis en évidence.
Ok.
Voilà, je voulais parler de lui. On voit pourquoi il intéresse beaucoup de monde, ce Mendeleïev, et pourquoi dans toutes les salles de classe, quand même, de physique-chimie, on affiche ce tableau. C'est rien, quoi.
On l'a tous vu, c'est sûr.
Parce que c'est à la fois la base de la chimie, c'est la base de la chimie, donc de la matière, donc de tout. Parce que même de l'électromagnétisme, les photons, on en a déjà parlé, ils interagissent avec les électrons. Un électron peut capter justement un photon pour aller se balader sur une couche plus haute et inversement reperdre de l'énergie pour redescendre sur une couche plus basse et émettre un photon. Donc là, c'est là que ça se passe, l'émission de la lumière, l'électromagnétisme, l'interaction avec la matière. Donc lui, il décrit tout ça.
Et puis ce qu'on disait avec le pétrole, tous les dérivés du pétrole.
Tous ces enjeux aussi industriels et chimiques.
Et plastiques, etc. Quoi.
Exactement.
La base de notre société, elle est basée sur ces travaux de matière. Là.
Voilà. Alors après, il y a deux domaines que lui n'avait pas explorés et qui sont arrivés ensuite, et je conclurai là-dessus. C'est celui d'Einstein avec la gravitation universelle et la relativité générale. On est quand même dans autre chose et on y revient, la mécanique quantique, un peu de la même époque. Ces deux théories d'ailleurs sont arrivées juste après la mort de Mendeleïev, et là on rentre dans la physique du 20e siècle avec ces deux personnages, ces deux théories. Voilà, on va s'arrêter là pour cette semaine. On espère que vous avez pris plaisir avec ce nouveau format de l'émission là, un peu plus champêtre. Après l'émission spéciale, on reviendra au format plus classique, ou peut-être qu'on ira au studio, on verra comment on fait. Ouais. Merci de suivre l'émission et à bientôt sur RDWA. Bonne semaine.
Merci beaucoup, à bientôt.